genevactive.ch.
Alors, trois solos pour Tamara Bacci, danseuse d'origine italienne qu'on a eu l'occasion d'apprécier sur des plateaux d'ici et d'ailleurs, notamment avec des chorégraphes comme Cindy Fonacker, Gilles Jobin, pour ne citer que les plus connus. Ici donc, une commande qui a été passée à trois chorégraphes, trois univers très contrastés, différents, que vous explorez en trois étapes. Quel a été votre désir de départ, Tamara Bacci, pour ce projet chorégraphique en trois volets?
Mon désir de départ, c'était de pouvoir travailler avec des chorégraphes très différents, en fait, en solo, très exclusivement, et de découvrir aussi, pour Juan Dominguez, par exemple, pour la dernière pièce, un monde totalement nouveau. Après, avec Cindy, c'était de continuer de découvrir ce qu'elle a à m'apporter, ce qu'elle a à apporter en tant que chorégraphe, qui pour moi est pour l'instant toujours une nouvelle découverte, quoi. N'importe quel travail qu'elle fait, ben pour moi c'est toujours un électrochoc, une nouveauté. Après, avec Ken, c'était plus pour amener quelque chose de que j'avais déjà, que j'ai déjà fait, que j'ai déjà expérimenté, voilà, et que je voulais quand même refaire sur scène, quoi, un petit peu.
Pour la pièce de Ken Ossola qui ouvre cette soirée, vous apparaissez sur un podium avec en fond, chromatiquement parlant, c'est assez développé entre le noir et le blanc, donc un tulle blanc qui est étendu, et donc il y a une manière peut-être, comme l'explique le chorégraphe, de peler l'individualité de la personne, ses couches un peu comme un oignon, et on découvre progressivement plusieurs aspects peut-être d'une personnalité, d'une danseuse. Au départ, il y a un espace relativement contraint, un podium, c'est pas nécessairement du voguing à la Madonna, mais il y a strike a pose, il y a la manière de partir d'images arrêtées, et puis de lentement, strate par strate, un petit peu déstructurer le corps d'une certaine manière. Quel a été l'intérêt pour vous justement de travailler déjà dans un espace extrêmement circoncis et restreint sur LVOS?
Ça c'est arrivé un peu à la fin, parce que au départ c'était simplement de jouer sur quelque chose qu'on n'est pas vraiment, ce que nous demande un petit peu la société d'être. Alors c'est pas toujours forcément confortable avec des talons, avec, voilà, on a pris comme modèle justement les poses de top model des années 50, voire même avant, jusqu'aux années 2007, on a construit ça comme ça. Et ensuite, c'est vraiment que cette personnalité ne nous correspond pas. Et en fait, ça, au bout d'un moment, ça s'écroule, comme dans la vie. Si on n'est pas soi-même vraiment, ça, au bout d'un moment, ça perd son sens, ça s'écroule. Et du coup, c'est un peu ça qu'il a voulu montrer à travers ce podium, de paraître, en fait, se paraître comme ça. Et puis... après l'écroulement, la chute, jusqu'à enfin se dénuder, s'enlever ses chaussures, et chercher un peu sa personnalité, se rechercher. Alors au début, c'est un peu, on est emmené à droite, à gauche, on tient pas vraiment, on n'est pas encore dans l'équilibre. Voilà. Après, il y a un retour vers le podium qui est plutôt le renfermement, quelque chose où, voilà, on est en... Peut-être pas en semi-déprime, quoi, mais on se cherche, on va à l'intérieur de soi-même pour en sortir ensuite un petit peu plus soi-même, juste toi.
Il y a une sorte de parcours qui était annoncé, disons, vers une certaine forme d'animalité dans la pièce, ou en tout cas par le chorégraphe dans ses notes d'intention. De bestialité même, je crois. Il y a ce vacillement sur des talons, justement, donc vous avez ces talons qui se tordent, qui est un, disons, quelque chose de récurrent par rapport à la voûte plantaire pour des femmes chaque jour qui souffrent le martyre, et pas forcément avec des talons piqués à glace d'ailleurs. Lorsque vous descendez de ce podium, vos pieds gardent cette déformation, c'est ça qui est très, très sensible dans cette manière, donc vous progressez comme sur le tranchant de la... du pied, donc il y a une manière peut-être de déstructurer, de faire couler le corps comme ça, de le faire vaciller, puis en même temps de le restructurer à partir de cette fragilité, en fait. C'est quelque chose qu'on peut aussi ressentir de cette manière-là?
Oui, tout à fait. Absolument. Bah, de toute façon, c'est pas parce qu'on enlève des chaussures ou que on est, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas encore en équilibre. On le cherche, cet équilibre. Et du coup, c'est vrai qu'on le montre même sans les talons, un peu en vacillement, comme ça, en déséquilibre. Ouais, c'est voulu, en fait. C'est voulu, mais quelque part, je l'ai un peu amené à Ken, quoi. Un peu c'est plutôt une progression. Et ça montre un petit peu plus peut-être la progression. Après, vous parlez d'animalité. Je crois qu'il parlait d'animalité sur le podium après la deuxième fois. Hein. Ouais. Et ben c'est. Ouais. Au départ, c'était ça qui voulait une sorte d'animalité. Oui, et effectivement, un animal qui se renferme sur soi, qui c'est là l'animalité, pas la bestialité, l'animalité.
On a l'impression justement d'un mouvement qui est basé au départ sur la contention dans cette première partie, c'est-à-dire le fait de se replier sur soi. Et puis après, effectivement, il y a une ouverture qui se crée par le bassin, notamment, c'est-à-dire que les mouvements giratoires, si j'ose dire, que vous exprimez, sont très larges, vous creusez beaucoup le corps, on sort beaucoup le postérieur. Quelle qualité de mouvement pour vous il y a justement par rapport à ça? Parce qu'on peut, disons, faire voguer son imaginaire, mais de quelle manière ça évolue? Parce qu'on a l'impression, vous venez aussi du yoga, vous venez aussi de ce type de technique, même si elle n'est pas nécessairement convoquée ici, mais il y a quelque chose de, je dirais, moins animal qu'une certaine, je dirais pas félinité, mais en tout cas féminité, comme ça, qui s'exprime, une rondeur. Qu'est-ce qu'il en était justement sur ce travail que vous effectuez après, à la verticale, sur le plateau et puis au sol?
J'ai pas compris en fait ce que vous me demandez.
Alors par rapport à ça, justement, sur la progression de la pièce, lorsque vous êtes sorti de ce podium, après ces vacillements, qu'est-ce qu'il en est justement par rapport à cette qualité de mouvement que vous apportez vis-à-vis de ces mouvements un peu giratoires sur eux-mêmes?
Bah, en fait, là, le mouvement, il est plus comme c'est quand même du néoclassique, hein. Du coup, c'est quand même basé plus sur une esthétique, quelque chose qui est. Voilà, on crée un mouvement personnel, et puis il n'est pas forcément, il n'y a pas forcément une raison, il n'y a pas forcément une raison par rapport à ce qui s'est passé avant. En fait, donc le mouvement, il est juste créé parce que c'est joli, enfin parce que c'est esthétique, et puis il est assez, c'est ma façon, c'est ma manière de bouger dans cette pièce en fait. Quelqu'un d'autre qui fera la pièce fera peut-être pas du tout de la même façon.
Mais est-ce qu'il y a, même sans être une critique par rapport à ce que vous dansez, mais il y a quand même un décalage par rapport à une perfection néoclassique, par rapport au bien bouger, au bien danser, où on a l'impression que ça se subvertit un peu dès le départ, c'est-à-dire que comme vous déstructurez le corps, comme vous amenez les choses, on a l'impression que c'est presque, voilà, comme quand Forsythe fait une pièce comme In Pressing the Tsar, où il va systématiquement détruire la grammaire du ballet néoclassique tout en l'utilisant, notamment les pointes et autres. Est-ce que vous avez eu peut-être cette même impression avec ce commentaire à la fois ironique?
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, c'est quand même basé sur du néoclassique, mais il est cassé, il est déstructuré, c'est pas vraiment dans les règles, quoi. C'est peut-être le bassin qui part d'abord, la main qui part d'abord, qui emmène tout le reste, mais tout le reste est vacillant. C'est pas tout à fait classique ou néoclassique structuré comme ça. Et ça c'est voulu, mais c'est plus voulu de ma part, en fait, dans ce cas-là, et Ken a accepté. Cette manière de faire et de bouger, quoi.
Ouais. Alors, seconde étape avec Cindy Fonacker, dont vous êtes l'une des familières, c'est-à-dire que vous avez déjà repris son solo Fraxi, qui était une partie de sa création Balk. Ensuite, vous avez travaillé avec elle sur Pneuma 0205, et puis récemment, sur Kernel, je crois, deux pièces de groupe. Elle vous propose ici un solo. Elle parle d'ailleurs au départ d'une forme de plongeoir. Vous êtes habillé et vêtu en bleu, qui succède au noir de la première pièce. Qu'en est-il justement de se jeter dans une pièce à la fois très abstraite, très mathématique, mais qui joue beaucoup aussi sur la plasticité du corps?
Ah ouais, alors ça, c'est, pour moi, c'est très technique. C'est vraiment axé sur le mouvement, bien sûr, mais c'est surtout sur l'intérieur du corps. Je suis que à l'intérieur de moi-même et j'exécute ce mouvement et ces mouvements, et effectivement, en fait, c'est comme si je plonge dès le départ dans un marécage et puis on s'enfonce, on y va, ça suit, ça s'arrête plus. Et puis voilà. Mais on n'est plus du tout à l'extérieur. Je me rends pas du tout compte de ce que ça donne pour les gens, pour le public. Je suis complètement immergée dans mon intérieur et effectivement comme dans un marécage. Et on pourrait croire que c'est vraiment, je plonge d'un plongeoir et paf, ça y va.
Alors Fraxi, c'était 5 études, germe d'un nouveau vocabulaire dans lequel effectivement le danseur, interprète ou chorégraphe, si c'est le cas de Cindy Fondacœur, doit se plonger en apnée. Ici, je crois qu'il y a également donc 9 mouvements, déclinaisons sur 27 minutes. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment fonctionne cette grammaire?
Par rapport aux 9 mouvements, à Obvi ou
à... Par rapport à Obvi, oui.
Par rapport à Obvi. Ben oui, je peux vous dire, alors c'est basé sur 9 mouvements qui reviennent toujours sur un point fixe, sur une même image, qui a été créé dans la lenteur, en tout cas, normalement, comme Cindy travaille beaucoup dans la lenteur, quand même. Et puis ensuite, on a décidé d'essayer, parce que c'est très restreint, 9 mouvements, hein, et du coup, il fallait faire évoluer la pièce, et on a voulu essayer de travailler sur la vitesse, un peu sur les différents rythmes, lent, arrêt, plus lent, plus vite, plus rapide, de plus en plus vite, plus coulé, comme ça. Et elle a écrit justement une partition basée sur ces 9 mouvements. Voilà, elle a écrit d'abord 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, elle a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais avec toute une logique, bien sûr une logique à elle, presque mathématique, mais dans laquelle elle ne pouvait pas vraiment tricher. Dès qu'elle a trouvé la logique, elle la suit jusqu'au bout.
Alors, il y a souvent comme des suspensions, des stases de mouvement, comme si, même si cette immobilité est agitée de pré-mouvement, on s'en rend compte, si on a vu, notamment découvert le solo qu'avait créé pour elle Myriam Gourfing-Rare, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une immobilité, mais en fait, il y a toujours un mouvement qui agite, entre guillemets, le corps. Quelle est pour vous la difficulté justement de tenir ce type de pose? Parce que contrairement à Kernel, qui était une pièce, je dirais pariétale, c'est-à-dire que vous aviez un appui dans le déroulé du corps avec vos jambes plaquées sur le mur, ici il n'y a pas d'appui du tout, vous êtes, disons, au sol, les jambes dressées comme un ciseau pour donner une image. Quelle est quand même la difficulté d'être dans un mouvement qui est à la fois de l'extérieur vu comme une sorte de lâcher prise, il y a une très grande, Gourfing a beaucoup travaillé, je crois, le yoga, et puis en même temps, une intense concentration. Comment est-ce qu'on arrive justement à entrer dans ce type de choses? Parce que souvent, on a l'impression d'une succession de mouvements arrêtés. Est-ce que c'est le cas ou...
Il y a une succession... Ben, disons, avec Cindy, on travaille énormément avec du yoga. Hein. C'est régulièrement 2 heures de yoga pour renforcer le centre. Ensuite, oui, il y a ces mouvements arrêtés, comme vous dites, mais ce n'est pas arrêté. En fait, le mouvement, il est... dans l'immobilité, il continue d'aller, il continue de vivre. Et c'est ça, le travail de Cindy. Ce n'est pas l'immobilité, c'est vraiment sa vie. C'est justement la difficulté, c'est quand on ne fait rien. En apparence, c'est plus difficile parce qu'il faut continuer à, quelque part de l'intérieur, aller quelque part. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, ouais. C'est
ce que Cindy Fondacœur disait peut-être dans sa note d'intention, il y a un corps qui se déplace là où la composition l'emmène. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dialogue aussi, d'aller et retour entre les deux, où elle parle de pièces évolutives, même si les choses sont très, très marquées, très sérielles, comme une partition de musique par exemple. En même temps, on a l'impression que c'est toujours quelque chose qui évolue organiquement. Est-ce que c'est le cas?
Oui, tout à fait. Absolument. Elle trouve toujours le moyen que ce soit organique. Si c'est pas organique, elle, en fait, à force de répéter, de refaire, de faire, de faire et de refaire le mouvement, on trouve l'organicité. Enfin, on trouve le moyen que ce soit plus coulé, plus simple, plus juste, quoi. Alors ça, c'est juste.
Donc il y a 18 phrases qui sont créées. Pour Kernel, on se rappelle notamment qu'il y avait tout un système de numérotation qui était notamment sur le corps des danseuses elles-mêmes ou à terre. Est-ce que c'est le même procédé ici?
C'est le même système en fait. C'est voilà, c'est chaque mouvement, on lui donne un chiffre, et puis ces chiffres ensuite sont partitionnés, voilà. Mais toujours, elle a une logique, elle doit trouver une logique pour pouvoir continuer la partition, pour qu'elle ait une raison d'être et de vivre, quoi. C'est pas au hasard, et c'est le même système pour Obvi en quelque sorte. Et je suis pas sûre pour Fraxi, en tout cas une des pièces, non, pas vraiment, pas pour Fraxi, c'est pas la même chose.
Alors c'est une pièce en tant que spectateur qui se mérite, qui a une exigence d'écoute. C'est vrai qu'elle a été préparée par d'autres, que ça soit Xavier Leroy, Myriam Gourfing, qui ont effectivement joué sur ces qualités de lenteur, de développement. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est une pièce qui est souvent, comme dans le cas des créations de Cindy von Acker, accompagnée par une création d'ordre sonore, musical, qui est ici peut-être atmosphérique d'une certaine manière. Et donc il y avait cette collaboration, je crois, avec Pansonic pour Kernel, et puis ici une collaboration avec Denis Rollet, qui est un vieux complice de Cindy von Acker. Que vous a apporté d'abord ce qui semble être une forme de souffle, et puis ensuite de clapotis marécageux, parce qu'il n'y a pas nécessairement de soutien. Pour Kernel, il y avait quand même des moments où la musique était très, je dirais, du minimalisme extrêmement rythmé, comme métronomique.
Ouais.
Ici, le métronome, peut-être parce que nous, on n'est pas en symbiose avec la musique, enfin la partition proposée par Denis Rollet. Est-ce que vous commencez, c'est un soutien kinesthésique, c'est quelque chose que vous arrivez à ressentir complètement dans votre corps ou...
Oui, c'est pas un rythme qui me transporte ou que je suis, mais c'est comme une boule qui m'entoure, en fait, ce son qui est là et qui est avec moi tout le temps, en fait, mais pas comme un rythme, comme un son qui me transporte, qui m'entoure, qui me suit comme une sorte de nuage, comme ça.
Bien, on va vous laisser aller dormir avant d'engager à nouveau ces trois solos.
Genève Active.ch